Tout d'abord, il me semble, après les queues que doivent avoir les différents prêtres au port, donc il y aura sans doute après la messe, vous pourrez aller vous confesser si vous le souhaitez, et nous reprendrons plusieurs d'entre nous sans doute immédiatement après le repas pour soulager un peu vos cœurs, peut-être pressés par le désir de dire vos péchés et d'en être un petit peu libérés, d'accord. Puis cet après-midi, suivant les rendez-vous qui sont déjà fixés, nous ferons comme nous pourrons. Voilà. Restez bien calme, quel que soit votre désir de vous confesser, voilà. Mettez-vous bien dans la providence divine et puis restez paisible. Deus non in commotione. Dieu n'est pas dans la commotion et le trouble. Regardons Sainte Marie-Madeleine et voyons ce que le Saint-Esprit est capable de faire dans un cœur humain. Car le Saint-Esprit, voyez-vous, est le principal auteur de cette charité dont nous avons parlé ce matin. Charité qui nous montre un Dieu infiniment aimable, qui aime parce qu'il aime, qui a répandu en nous cette vertu surnaturelle entre les surnaturels, la vertu de charité qui nous fait aimer un peu à notre façon de créature, un peu aimer Dieu comme il s'aime lui-même. Cette charité, lorsqu'elle descend dans un cœur humain, cette charité divine, elle nous fait, nous le disions, aimer ce que Dieu aime et aussi haïr ce qu'il est. Le péché, l'infidélité. Le résumé de notre vie spirituelle, c'est d'aimer Dieu un peu comme il s'aime et de haïr ce qu'il est un peu comme il le est. La haine du mal, la haine de ce qui pourrait diminuer l'amour. Déjà, les vertus théologales le font certainement, nous aident à le faire. Nos vertus morales également, car il y a adhésion dans chaque vertu à un bien, éloignement d'un mal. Mais pour ce qui concerne l'amour, voyez-vous, le bon Dieu a voulu ajouter une action spéciale, une action qui est toute spéciale, qui vient du donateur, de celui qu'on appelle le don. Le Saint-Esprit. Ce donateur nous fait vraiment, il est, nous pouvons dire, voyez-vous, le Saint-Esprit, c'est le cœur même du bon Dieu, c'est son cœur. Il a donné aux êtres humains, dans leur corps, un cœur, dans leur âme aussi un cœur, pour aimer, une volonté qui aime, sous la lumière de l'intelligence. Nous avons un cœur de notre être. Nous sommes des personnes, nous vous l'avons expliqué un peu ce matin, enfin, rappelé au moins, ou hier soir, je ne sais plus. Nous sommes une personne. Personne. Un fond mystérieux d'où part de la connaissance, du désir, de l'amour. Et bien le bon Dieu aussi, il a un cœur et c'est le Saint-Esprit. Et ce donateur, ce don d'amour qui est au sein de la Trinité, le Père qui se donne au Fils, le Fils qui se donne au Père, et ce double don qui s'achève, qui se termine au Saint-Esprit, qui est quoi? Nous savons que Dieu est amour, Saint Jean nous le dit. Mais en Dieu, il y a un amour personnel. Le bon Dieu, c'est l'amour personnifié, très spécialement dans l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est l'amour personnel de Dieu, l'amour substantiel de Dieu. Le bon Dieu est essentiellement don et communication de connaissance et d'amour. Alors ce donateur va nous apprendre à aimer Dieu personnellement, à aimer Dieu intimement. Il va nous donner la science de l'amour, et dans cette science de l'amour, la science de la haine de ce qui s'oppose à l'amour. Alors, premier don, très pratique, on commence souvent les exposés des dons du Saint-Esprit par celui-là. Le don de crainte de Dieu, c'est une crainte révérentielle, une crainte aimante. Ce n'est pas la crainte d'abord servilement servile, loin de là. C'est la crainte de l'amour. Quand nous aimons, dans les familles, les parents, les époux, les enfants, nous craignons d'attrister ceux que nous aimons. Eh bien, quand nous aimons Dieu, nous craignons de l'attrister. Et ce don de crainte excite en nous, développe en nous, une humilité dans l'amour. Une humilité dans l'amour. Je n'aime pas Dieu autant que je devrais l'aimer. Je ne hais pas tout ce qui s'oppose à cet amour, pas assez. Crainte de Dieu, don de crainte, descendez dans mon cœur. Pour que je haïsse ce qui m'empêche d'aimer Dieu et mon prochain, d'aimer Dieu et d'aimer tout ce qu'il aime comme il l'aime. Éloignez de moi ce qui s'oppose à vous, mon Dieu. Et c'est l'esprit de crainte, c'est le donateur de la sainte crainte de Dieu qui nous rend humbles. Tous nous dirons, surtout quand on parle du curé d'Ars, il était si humble parce que le don de crainte agissait très spécialement en lui. Il était délicat envers le bon Dieu. Quand on aime vraiment, on est délicat. On ne va pas seulement essayer d'éviter le péché mortel, il faut bien sûr en tout premier l'éviter. On va passer le péché vénial l'hiver, et oui, mais non, ce qui pourrait ternir, atténuer notre amour. Donc on va faire la chasse aussi aux imperfections de notre amour, même s'il ne faut pas de nombreux péchés véniels délibérés, ou même pas du tout. Nous allons essayer d'acquérir une délicatesse dans l'amour. Le séminariste qui se donne à Dieu en vue d'être prêtre, le religieux qui se donne à Dieu en vue d'expier ses péchés ou de poursuivre la perfection, les époux qui se marient dans le mariage, il doit faire grandir cet amour initial que nous avons, qui a fait que nous nous sommes donnés et que nous allons éloigner tout ce qui pourrait diminuer ce don et que nous allons entretenir ce don en y mettant le bois du sacrifice. Le feu de notre amour a besoin du bois du sacrifice. Et l'esprit de crainte va beaucoup nous y aider en nous donnant d'abord une grande, une magnifique idée et pas seulement qu'une idée, mais une réalité, de voir la réalité de la bonté, de l'amour de Dieu. Et que nous vons essayer de croître de plus en plus dans notre cœur et d'éloigner ce qui nous empêche d'aimer Dieu. Donc, don de crainte. Et nous l'avons tous. Depuis le baptême, pas la confirmation seulement. On parle beaucoup de dons du Saint-Esprit seulement en confirmation, parce qu'effectivement, la confirmation, c'est le sacrement de l'adulte spirituel, nous dit saint Thomas d'Aquin. Nous avons la pleine, une certaine plénitude, un sacrement adulte, un sacrement. Il appelle le sacrement, c'est très beau, de la perfection. Perfection de l'amour, perfection des vertus, perfection de la foi, perfection pour pouvoir donner. Quand on est plein, on a envie de donner. C'est ce qui arrive au moment de la confirmation. Il y a une réactivation de nos dons pour que nous puissions donner. Et des apôtres, et des cœurs qui brûlent et qui réchauffent autour de nous, qui illuminent et qui réchauffent. Don de crainte, don pratique, pratiquement pratique dans la vie spirituelle. C'est ce don de crainte qui en partie agit quand vous préparez vos confessions et que vous dites vos péchés. Deuxième don pratique qui va vous aider à bien vous confesser, à bien vivre votre retraite. Mon Dieu, par le Saint-Esprit, je sais que vous êtes Père, infiniment Père. C'est votre plus beau nom, le nom de Père. Un Père qui engendre un Fils et des fils dans ce Fils. Ô paternité de Dieu, paternitas, Père, celui qui engendre de la connaissance, de l'amour, du service, des perfections qu'il rayonne. Il est principe dans la Trinité. Tout ce qu'il y a de beau en Dieu, ça vient du Père. Jésus-Christ vient du Père. L'Esprit Saint vient du Père. Mon Dieu, vous êtes Père. Père de mon âme. Et parce que vous êtes Père, ceux qui sont autour de moi sont mes frères. Et donc vous me donniez des yeux et un cœur pour que je les voie comme étant vos enfants et pour que je les aime. Oui, ils sont faibles. Oui, ils sont ignorants. Oui, ils sont pleins de misère. Oui, ils sont pleins de défauts. Mais vous êtes leur Père. Vous êtes leur Père et je veux les aimer un peu comme vous les aimez. Esprit de piété qui souffle ça dans les âmes et qui encourage beaucoup, beaucoup notre charité. D'ailleurs, à tel point, voyez-vous, qu'au Moyen-Âge, lorsqu'on parlait de pietas, on parlait de la pietas dei, la pietas domini. Qu'est-ce qu'on voulait dire? La bonté de Dieu. Pietas, c'était l'équivalent de bonitas chez les auteurs spirituels des 11e, 12e siècle. Bonitas. Ô bonitas de Saint Bruno, pietas domini. Bonitas, pietas, sanctitas. Alors quand on a le don de piété, on a cette bonté du Père en nous qui fait que nous sommes des enfants de Dieu et que nous savons que nous sommes des enfants et que le cri de l'enfant c'est « Papa, Abba ». Vraiment Dieu est notre Père, bien plus que les petits-enfants qui sont les enfants de leur mère. Dieu est plus que notre mère, plus que notre père, plus que nos parents. C'est lui qui a donné à nos parents, à nos mères d'être nos mères, à nos pères d'être nos pères, à nos maîtres, à nos prêtres, à nos inspirateurs, à nos supérieurs d'être pères. La piété étant le regard du Fils, étant la paternité de Dieu sur tout ce qui détient quelque chose de cette paternité, sur le papa, sur la maman, sur le grand frère, sur la grande sœur, sur le prêtre, sur le directeur spirituel, sur le supérieur religieux, sur mes frères qui vivent avec moi, sur mes confrères séminaristes, sur les retraitantes qui m'entourent. Ce sont mes sœurs. En Dieu, cachées, sont mes sœurs, même si je ne les connais pas très bien, sont mes sœurs. Et je verrai à quel point elles sont mes sœurs au ciel. Car Dieu, des fois, fait que des âmes soient très sœurs sans qu'elles se connaissent, parce qu'elles vibrent aux mêmes choses, parce qu'elles aiment les mêmes choses. Et elles se reconnaîtront, ces âmes, au ciel. Elles se verront dans toute la foule. J'ai vécu les mêmes choses que cette personne-là. Quelle intimité il y aura en Dieu au ciel à cause. C'est le don de piété qui fera ça. Crainte, piété. Il faudrait ici vous parler, puisque c'est un don pratique de la force, qui fait que la vertu de force, elle fait que nous attaquons et nous supportons. Alors, on est tantôt assiégé et tantôt, la meilleure défensive, c'est l'offensive. On se défend, on attaque. Et saint Thomas nous dit que le plus difficile, c'est de se défendre, parce que ça suppose que l'ennemi est plus fort que nous et qu'il nous encercle. La vertu de force fait déjà ça. Esprit de force, une action spéciale de Dieu, une action spéciale de sa toute-puissance aimante, qui fait que nous allons résister pour l'amour de Dieu, à cause de l'amour de Dieu. Résister, qui va encourager notre patience, qui va nous donner la magnanimité. Dieu est plus grand que tout. Sa bonté mérite tout. Tout le sacrifice, même le sacrifice de notre vie humaine, notre corps, du bonheur simplement humain, notre âme, humain, j'entends. La force fait ça. Alors, soit pour attaquer, mais souvent dans les martyrs, par exemple, pour supporter. Supporter. Quand on pense que des martyrs... Oui, c'est un martyr dominicain, je crois, qui ont fait ça. Ils s'excusaient de donner de la peine à leur bourreau. Faut le faire, quand même. Hein. Ils s'excusaient de donner de la peine à leur bourreau. Vous avez bien entendu ? Comment c'est possible ? Esprit de sagesse et de force qui était en eux. Un grand courage, grande fidélité. Le don du martyr, c'est une fidélité qui a été de très 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 loin avant. C'est pas descendu brusquement comme ça, non. Fidélité de tout le jour qui leur a donné cette grâce finale, qui est l'acte éminent évidemment de l'esprit de force. Mais cet esprit de force, ce don de force, agit dans nos vies. Pourquoi ? Pour adhérer à ce qui est difficile dans notre devoir d'État. Esprit de force, trois dons pratiques. Passons au don de connaissance. C'est ce qui nous impressionne dans l'héroïsme des saints, l'héroïsme des martyrs, l'héroïsme dans leurs tentations, etc. C'est l'esprit de force qui agit, le don de force. Et nous l'avons en nous, mais il faut l'exercer, évidemment. On dit bien ça, pour un boxeur, s'il veut s'entraîner, on ne va pas le faire taper dans du poids-plume, dans un plechant avec des plumes. Un punching ball, là, de plus en plus dur, et puis le mieux, c'est qu'il ait en face un autre qui le fasse progresser, de force légèrement supérieure. Bon Dieu fait ça, propose, nous aide, gradue les exercices, et si pédagogue le bon Dieu. Mais pour qu'on exerce ce don de force, à travers les épreuves de la vie, à travers tout ça, la vertu et le don. Le don qui fait que c'est une action plus spéciale. Il y a plus à se laisser faire, si vous voulez. On doit être plus réceptif pour les dons. Alors, les dons de lumière, les dons de connaissance, sans doute les plus beaux, les plus enchanteurs, parce que... ils sont là aussi. Voyez-vous, quand un don fonctionne à plein, les autres, ils sont aussi par là, ne vous inquiétez pas. Ça ne fonctionne pas comme ça, ce n'est pas un bouton, il n'y a que ça qui fonctionne. Les âmes qui sont sous le régime des dons, qui cherchent, qui sont dans ce qu'on appellerait la voie illuminative, la voie des progressants, dans laquelle devraient être en principe la plupart des chrétiens. Tous les autres dons agissent aussi. Il y en a un suréminent qui fait agir tout spécialement les autres. C'est le don de sagesse, on verra tout à l'heure. Mais ces dons de lumière... Et là, c'était surtout des dons d'action, la crainte, éviter ce qu'il appelle la force, la piété. Les dons de lumière. Alors, un qui est très, très, très pratique. Ah, le conseil. Il faut décider vite, rapidement, tac, 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 vite, avec l'esprit de Dieu. Esprit de conseil. Les juges de Sainte Jeanne d'Arc. Est-ce que vous êtes en état de grâce ? Si j'y suis, que Dieu m'y garde. Si je n'y suis pas, que Dieu m'y mette. Action du don de conseil. J'ai beaucoup de difficultés dans ma vie. La tentation, l'épreuve, la souffrance du corps, de l'âme, du cœur. J'arrive pas à obtenir ce que je demande à Dieu. J'arrive pas à obtenir ce que je demande pour moi. Je vais demander pour les autres. Et puis je vais travailler de plus miséricordieux pour les autres. Ah, Esprit de conseil qui agit. Parce que le principal conseil du Saint-Esprit, tu veux obtenir miséricorde, fais miséricorde aux autres. Commence d'abord par faire miséricorde aux Dieu, aux autres, et Dieu te fera miséricorde. Ça, c'est l'esprit de conseil qui agit. Et c'est le principal conseil qui nous donne le bon Dieu. Nous n'obtenons rien pour nous, demandons pour les autres, travaillons pour les autres, et Dieu s'occupera de nous. Occupe-toi de toi, occupe-toi de moi, je m'occuperai de toi, dit Jésus à Sainte Thérèse d'Avila. Occupe-toi des miens, de mes enfants, et moi je m'occuperai de ton âme. Aime les autres, et moi j'aimerai ton âme. Esprit de conseil, qui fait aussi qu'on prend conseil, bien sûr, qui pousse, qui excite notre humilité. Et nous nous rapprochons des plus beaux dons. Les plus beaux dons, parce que c'est presque des noms de Dieu. Dieu est aussi Dieu est le conseiller, c'est vrai. Dieu est le fort, Dieu est le pieux, le bon. Dieu est celui qui sait et qui donne sa science, la science de la création. Pas celle des physiciens, des chimistes et des biologistes. Celle qui fait voir le créé à son image à lui. Tout vient de Dieu, tout retourne à Dieu. Esprit de science. Qui fait voir aussi qu'entre ce qui est le Créateur et sa création, il y a un abîme infini. Comment pouvons-nous mesurer ce mystère, chers amis ? La création, ces merveilles du ciel, ces merveilles des particules atomiques, des mouvements physiques, chimiques, biologiques, enfin tout ce qui peut exister, même des mouvements dans l'ordre des esprits, des âmes humaines, des anges, ça n'ajoute rien à Dieu, zéro, ça n'ajoute rien du tout. Et pire encore, nous ne pouvons pas comprendre ça, mais quand on fait la théologie, on dit, ce truc, comment c'est possible ? Tout ça, ça ne lui ajoute rien ? Non, ça ne lui ajoute rien. Ah, ça ajoute beaucoup à nous, hein, parce que c'est beaucoup pour nous d'exister ou de ne pas exister. Mais lui, ça ne lui ajoute rien, strictement rien. La création ne vient pas compléter le bon Dieu. Je ne peux pas comprendre, mais j'adore esprit de science. Mais deuxième chose très importante et qui va être très importante pour vos, notamment la préparation de vos confessions et l'accomplissement de vos confessions. Cette chose qui n'ajoute rien à Dieu, toute la création, et a fortiori chacune des créatures, cette création. Je suis capable, abruti que je suis, insensé que je suis capable de prendre la moindre de ces créatures et de la mettre à la place du bon Dieu. Marcher sur la tête, ce que font la majorité des hommes aujourd'hui. Ils marchent sur la tête, bon Dieu a fait la tête, le cœur et le reste en dessous. Aujourd'hui, on marche sur la tête, on marche sur son cœur. On est des mini-animaux et des monstres d'orgueil quand il n'y a pas le Jésus-Christ dans le cœur. Eh bien, à cause de cette création, je suis capable, je risque de perdre Dieu. Ça faisait pleurer les saints. C'est pourquoi on attribue le don des larmes soit au don de science, soit au don de crainte, les deux, suivant qu'on suit la terminologie de saint Augustin, de saint Bonaventure ou de saint Thomas d'Aquin. En tout cas, ils sont bien d'accord qu'il y a une action de la science et de la crainte dans le don des larmes. Pas mourir parce que mon petit chien est mort ou mon petit chat, attention. Je pleure parce que pour un trois fois rien, j'ai perdu Dieu. Ce qui vous explique les pleurs des âmes contrites, les pleurs de Madeleine. Pour trois fois rien, j'ai perdu Dieu. Don de science, demandons-le ce don de science qui fait tout voir à la lumière de Dieu. Et les choses de notre vie, les choses créées à la lumière de Dieu. Qui fait les apprécier à la lumière de Dieu et les repousser, vous voyez, avec l'esprit de crainte, en tant qu'elle pourrait nous priver de Dieu. Moteur de notre vie spirituelle, l'esprit de science, le don de science. Bienheureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. C'est la béatitude de ceux qui pleurent avec le don de science. Il reste les deux plus beaux à vous expliquer. Ils ont un lien plus spécial avec l'être même de Dieu. Dieu est celui qui est et celui qui connaît. Il est sa propre intelligence. Il est son propre amour. Le don d'intelligence, qu'est-ce qu'il fait ? Ce que nous vous avons dit ce matin. Il est aussi un don de connaissance, comme la science. Mais alors que la science fait connaître le créé, le don d'intelligence vous fait connaître les mystères suréminemment divins, suréminemment surnaturels. Trinité sainte, Jésus homme Dieu, Jésus hostie, une mère de Dieu, une société qui soit divine, l'Église, la communion des saints, les mystères proprement surnaturels, don d'intelligence auquel correspond, bienheureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Purifie l'intelligence et nous aide aussi à acquérir la vertu de chasteté. Pourquoi ? Parce que plus nous contemplons des choses pures en Dieu, des choses hautes, des choses grandes, plus nous avons envie de laisser notre corps un petit peu, avec toutes ses passions, ses pulsions, ses instincts. Ça vous explique aussi que, on dit pour saint Thomas et pour d'autres saints, mais docteur l'Église, pourquoi ont-ils eu tant de lumière dans leur intelligence, saint Grégoire de Nazianze spécialement, saint Thomas d'Aquin ? Parce qu'ils étaient chastes. Mais parce que le don d'intelligence aussi les aidait à mépriser ce qui s'opposerait à la chasteté. Ils avaient la virginité de l'intelligence, la virginité de l'âme. Et alors les créatures, elles étaient loin d'eux, loin, parce qu'ils avaient l'intelligence de Dieu, la pureté du cœur, la pureté de l'intelligence. Pas l'intellectualisme, hein, non. La pureté de la contemplation. Regarder Dieu un peu comme les mystères intimes de Dieu. Alors il vivait dans l'ordre, dans la paix. Et enfin le don de sagesse, suréminent, parce qu'il suppose l'activité de des six autres, bienheureux, et qui donne la paix et la joie. Le don de sagesse, qui a une affinité toute spéciale avec la charité divine, qui donne cette béatitude de la paix. On a la paix en soi, on la communique aux autres. Bienheureux les pacifiques, ils seront appelés enfants de Dieu, comme Jésus-Christ. Affinité spéciale avec la personne même de Jésus-Christ, qui s'appelle Sagesse. Le nom propre de Jésus-Christ, c'est Sagesse, Verbe, Fils. Bienheureux les pacifiques, qui ont la paix de Dieu, la paix de l'ordre de Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, qui est tout ordre, qui met dans la paix, la tranquillité de l'ordre. Le Père est premier, le Fils est premier, le Saint-Esprit est premier par rapport à nous. Le Fils reçoit du Père. Le Fils aime avec le Père. Ça nous met dans l'ordre, dans l'ordre, dans l'ordre. Sagesse, esprit de sagesse. Tranquillité de l'ordre, tranquillité de l'amour. Nous apprend charité avec l'esprit de sagesse. Nous apprend vraiment aimer Dieu avec sagesse. Et nous fait comprendre, voyez-vous, que la sagesse naît essentiellement de l'amour surnaturel. La sagesse naît essentiellement... La connaissance nous fait aimer, et c'est très bien, naturellement et surnaturellement, c'est vrai. Mais l'amour surnaturel, les accents les plus forts de notre charité théologale et l'esprit de sagesse font naître une connaissance toute nouvelle, une connaissance d'intimité, une connaissance de connaturalité, une connaissance d'affinité, une connaissance d'affection. Notre cœur vraiment devient le cœur de Dieu. Voyons ça dans les saints. Et nous les avons. Tout ça, c'est nos richesses, chers amis, c'est nos richesses. Les vertus prédisposent aux dons. Mais il est vrai aussi de dire que l'action des dons excite nos vertus, entraîne nous pousse vers le donateur. Fait que de plus en plus, nous pourrons dire, oui, nous sommes des fils de Dieu. Bienheureux les enfants de Dieu, ils ont les vertus de Dieu, les dons de Dieu, le bonheur de Dieu, les béatitudes de Dieu. Ô Esprit Saint, dites merci au Père. Dites merci à Jésus, dites merci à notre très sainte mère, l'épouse du Saint-Esprit, le lieu privilégié du Saint-Esprit, qui veut nous donner ses dons, qui font vivre déjà, qui nous donne les sens du ciel, les organes du ciel, les antennes du ciel, les sept dons du Saint-Esprit. Mère toute sainte, sanctuaire vivant, animé du Saint-Esprit, elle est pleine, son cœur est plein des dons du Saint-Esprit, toute pleine. C'est elle qui va vous donner ses grâces, qui vous donne ses grâces, qui vous obtient ses grâces de la retraite, d'une bonne confession, d'une bonne satisfaction, d'une bonne résolution, des plans sages de sanctification qui vont être pour vous à la fin de cette retraite et ensuite. Marie, elle est pleine du Saint-Esprit, pleine des dons. Elle veut nous donner ses dons. Elle est la donatrice avec le donateur. Ô Mère Sainte, aidez-nous à bien profiter du saint sacrifice de la messe. Par le précieux sang, nous savons que ces dons du Saint-Esprit sont en nous, que ce précieux sang nous protège contre tous les ennemis de ces dons du Saint-Esprit, pour que nous n'ayons pas l'esprit de la bête et du démon, mais l'esprit de notre Père du ciel et de notre maman de la terre. Mère toute sainte, assistez-nous pendant cette sainte messe.
Les résolutions doivent être au four, faut pas que ça, faut que ça cuise bien, ça brûle pas. Donc, souvent les derniers jours, ça fait 2 ans que j'ai pas fait de retraite ici, mais il y a ce qu'il y a eu un peu aujourd'hui, hier, des petits carambolages sur les feuilles de rendez-vous. Donc, mettez pas d'heure, vous mettre au fur et à mesure, parce que peut-être on changera des, pourra élargir un peu les horaires, ou allonger, ou raccourcir suivant les. Aux portes. Vous mettez vos noms, puis on dira ce qui est possible ou faisable. Bon, également, l'avant-dernier jour, souvent aussi, la langue est plus difficile à retenir. Vous inquiétez pas, il y a ça dans les ordres religieux. Ça revient régulièrement, le rappel au silence, sinon de parole, du moins de gestes. Chez les cisterciens, même un jour, c'est un des ordres où il y a le silence, c'est le plus strict, le plus profond. D'autant plus difficile que les cisterciens disent qu'il y a de plus difficile, c'est qu'ils sont tout le temps au camin. Pour tout, ils ne peuvent pas se parler. Donc même dans les dortoirs, etc., où ils sont vraiment les uns sur les autres. Il n'y avait pas de cellule individuelle au début du siècle, en tout cas. Donc à la coulpe, le chapitre des couples, là où le supérieur, on a vous des fautes externes, il y a un moine qui s'accuse d'avoir parlé parce qu'il a vu un moment sortir un beau lapin de Garenne, puis il a dit quelque chose. Alors le supérieur, comme coulpe, il a donné, eh bien, y a-t-il eu conversation ? Bon. Voilà, bon. Donc restez bien dans le silence, dans la prière, hein. Vous avez des grâces à récolter jusqu'au dernier moment de la retraite. Le silence est une pénitence. Voyez, j'aimais beaucoup un père cistercien qui a développé la doctrine du silence en disant que le silence obéit aux 3 lois de la vie spirituelle, aux 3 étapes de la vie spirituelle. Le silence a un côté purgatif, de pénitence, un côté illuminatif, ce qui dispose à des grâces de contemplation, de compréhension, de saisie de Dieu. Et surtout, il a un côté unitif. Il nous unit à Dieu et à nos frères. Dans le silence, beaucoup de choses se déposent, se décantent. Donc notre sujet cet après-midi, c'est la Sainte Église catholique. C'est un peu délicat parce qu'il y a 3 gros quarts d'heure. Oui, j'ai oublié à chaque fois qu'il fallait aller à la chapelle après. J'avais oublié aussi, donc nous tâcherons d'y aller après. J'ai oublié aussi donc que les bibliographies peuvent être utiles. Alors, en ce moment, ce que je vous conseillerais pour la Sainte Église catholique, c'est à la fois très clair, très serein, très opportun. C'est donc le catéchisme de la crise catholique que certains prières ont eu même la bonne idée de commenter à chaque sermon depuis quelques semaines, voire quelques mois. C'est un ensemble d'articles parus dans le Ciel de la Terre qui a été groupé en un seul ouvrage. L'auteur, c'est le professeur de dogme de Zeitzkofen, M. l'abbé Mathias Gaudron. C'est excellent, excellent. Juste, doctrinal, pondéré, pas passionné, nuancé. Exact, vraiment ce qu'on peut souhaiter pour nous pasteurs, de toujours avoir bien cette doctrine en tête et de la dispenser dans la prudence et la charité, pour vous aussi fidèles. Vous pouvez aussi relire Hors de l'Église, ou lire, c'est pas compliqué, pas difficile, Hors de l'Église, pas de salut, du père Hugon, qui fait d'importantes et intéressantes distinctions. Sinon, vous avez les éditions du catéchisme là, de la fraternité, donc dogme, liturgie, morale et histoire de l'Église, je crois. Celui sur le dogme, donc j'essaierai surtout de me servir du plan, qui est très bien, très développé. Donc un peu toutes ces choses, c'est très... La Sainte Église du Père Emmanuel. La Sainte Église du Père Emmanuel. C'est à la fois, en général, très vrai, très bon. Et il met beaucoup de beauté dans ce qu'il dit, beaucoup d'harmonie, beaucoup de profondeur. Nous avons traité hier des vertus théologales et nous sommes arrêtés un peu au fait que la foi a pour objet le surnaturel. N'oublions jamais que l'Église est un mystère surnaturel qui suppose la foi. Aucun philosophe, aucun penseur, a fortiori, aucune personne qui ne soit pas catholique ne peut comprendre, ne peut saisir, ne peut être à la portée et à la hauteur du mystère profond de la Sainte Église catholique. C'est un mystère aussi profond que le mystère lui-même de l'incarnation. Parce qu'en notre Seigneur, vous le savez, cette double nature, divine et humaine, eh bien, va se retrouver dans la société que lui-même a fondée. Il est aussi difficile, voire plus difficile, de voir Dieu dans la Sainte Église que de le voir en notre Seigneur. Pourtant, il y a bien des arguments apologétiques, puisque Saint Augustin, déjà opposé aux hérétiques, leur disait « Vous prétendez que l'Église n'a pas fait de miracle, qu'elle existe sans miracle. » Bien, effectivement, vous avez raison, c'est de deux choses l'une. Où il y a eu des miracles, où il n'y a pas eu de miracles. Mais s'il n'y a eu aucun miracle dans l'histoire de l'Église pour qu'elle se maintienne telle qu'elle est, en unité de foi, de gouvernement, de culte, eh bien cela, à soi seul, tout l'ensemble de l'histoire de l'Église, l'existence actuelle de l'Église est à soi seul un miracle. Parce qu'elle aurait été, depuis longtemps, elle aurait dû disparaître de la terre, vu tous ses ennemis. Ce serait le plus grand des miracles qu'elle ait existé sans miracle. Connaît Saint Augustin, c'est une pensée paradoxale, mais qui est toujours un écho profond de la vérité. Qu'est-ce qu'on nous dit donc au sujet de la définition de l'Église ? Commençons par définir les choses. Donc un mystère essentiellement surnaturel. Ecclésia, l'Assemblée, une société donc, mais une société qui n'est pas vraiment tout à fait comme les autres. Ce qu'elle a en commun avec les sociétés, bah, elle a des matériaux qui sont les hommes. Voilà, les êtres qui sont les hommes. Mais ce n'est pas un tas de pierres ou un troupeau d'animaux. Ils sont organisés en vue d'une fin. Et pas seulement une fin naturelle, comme dans une société naturelle, mais une fin surnaturelle. Que peut-on attendre d'une société naturelle, d'amitié ? De loisirs, l'accomplissement d'un certain bien naturel. Société de pêche, société de sport, société d'argent, société de droit, société de production, société de vie sociale, tout simplement, avec une certaine convivialité, un minimum d'amitié, de sociabilité, on atteint une fin naturelle, un certain bonheur naturel, une certaine vertu naturelle en principe, que même les païens ont dit que pour qu'une société puisse exister, il faut qu'il y ait une certaine vertu des citoyens. Une certaine. Et c'est le but principal, normalement, des chefs d'État. On en est loin. Bon, en passant. Assurer un certain bonheur par la vertu des citoyens et de bonnes lois. Voilà, une société naturelle. En disant ce que c'est, en disant sa fin, en disant aussi sans doute les moyens qu'on va employer pour que cette société continue d'exister. Les lois, la famille, un gouvernement, un pouvoir exécutif, un pouvoir législatif, etc. Coercitif, etc. Société naturelle. À une fin surnaturelle qui est quoi ? La société de la vie divine qui doit nous procurer la vie divine pour toujours. Lex suprema ecclesiae, salus animarum. Le but de la Sainte Église, c'est d'assurer par une société divine unifiée par la foi, le culte et le gouvernement, assurer le salut des âmes. Est-ce que c'est important de dire ça aujourd'hui ? Oui, c'est important. Et dans le salut des âmes, il y a une hiérarchie, il y a un ordre. Qu'est-ce que vous diriez d'une famille où, sous prétexte de charité, on irait nourrir, vêtir, éduquer les enfants du voisin et on laisserait les siens dépérir. Je crains fort que l'état de l'Église soit un peu ça aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on est soucieux ? Il faut convertir les bouddhistes, les musulmans, les frères séparés. Comme si c'était tout nouveau. Avant, l'Église, elle n'était pas charitable. On a découvert ça. Heureusement qu'il y a Vatican II, hein, parce que sinon, on ne serait pas missionnaire. La sagesse de l'Église a toujours été de d'abord rendre saints ses propres membres, avec toute sa faiblesse, avec toute sa pauvreté, mais en s'appuyant sur la vérité de la foi, la sainteté du culte et la justice et la charité du gouvernement divin, du gouvernement humain, ministériel, magistériel et ministériel. Et quand l'Église a cherché à convertir, elle l'a fait d'abord par ses ministres, ses prêtres, ses missionnaires, ses religieux, ses fidèles. Car les fidèles vivent dans le monde et doivent représenter aussi la sainteté de Dieu dans le monde. Mais elle n'a pas confié aux fidèles de faire des grandes discussions théologiques et philosophiques, d'entamer des dialogues avec les musulmans ou je ne sais pas quoi. Elle leur a demandé de pratiquer leur foi, individuellement et collectivement. Pratiquer leur foi, voilà, c'est tout. Et c'est comme ça que s'assure le salut, d'abord. La sainteté des enfants qui nous sont confiés. Alors aujourd'hui, sous prétexte qu'il faut s'occuper des autres, on ne s'occupe pas de la sainteté des chrétiens, on ne s'occupe pas, pas suffisamment, en tout cas. On met en doute et on sème le doute dans le cœur des fidèles pendant toutes ces années, ces 20-25 années de crise, sur les vérités de la foi, sur même les vérités naturelles. Quand on entend des prêtres qui sont capables de dire avec leur bon sens naturel, du point de vue de la raison, mais on se dit, s'ils disent ça déjà avec des arguments naturels, raisonnables, en philosophie, mais ils ne peuvent pas prêcher la foi, ces gens-là, ils ne peuvent pas. Ils ne croient même pas à la vérité, ces gens-là. Même pas en vérité naturelle. Ça ne peut pas aller. Nous avons eu la visite la semaine passée de 5 séminaristes qui sont des séminaristes de l'Église conciliaire. Ben, ils nous ont dit que dans la plupart des séminaires, c'est le bazar doctrinal, quoi. C'est le bazar. Bazar, ils disent. C'est vraiment un grand bazar. Ils disent, au plus, il y a 2 séminaires en France qui maintiennent un semblant de foi, de piété, de doctrine. À l'école Vatican II, d'accord. Mais enfin, 2 séminaires, quoi. Alors, vous, fidèles, nous, prêtres, nous, religieux, nous, catholiques, nous devons être les premiers convaincus de la foi catholique, les premiers convaincus de la sainteté du culte catholique, les premiers convaincus que le gouvernement, c'est une grâce qu'il faut dispenser et que ce gouvernement, cette autorité, elle nous dépasse. On n'en fait pas n'importe quoi. L'Église n'est pas, disait le père Calmel, n'est pas le corps mystique du pape. Non. L'Église, c'est le corps mystique de Jésus-Christ, avec une tradition, une écriture sainte, une autorité qui vient de Dieu. Le vicaire reçoit son autorité, sa lumière, son gouvernement, sa force de Jésus-Christ, de l'Esprit-Saint, et dans des conditions qui ont été définies par l'Église. L'Église locale n'est pas le corps mystique de l'évêque, qui dirige selon l'esprit spécial de Vatican II, non. Ou de monsieur le curé dans sa paroisse. Non. Ils doivent être l'écho d'une tradition, de plusieurs conciles, des encycliques, des papes. L'Église n'est pas née à Vatican II. Voilà. Donc il faut bien revenir à ces choses-là. Un beau texte du cardinal Minzenti, 2 textes magnifiques, qu'il a dit en 56, il y a 50 ans. S'il redisait ça maintenant, on le condamne. Moi, je pense que s'il disait des choses pareilles aujourd'hui, on le condamnerait avec Monseigneur Lefebvre, hein, pas de problème. Hein. Même chose, même doctrine. Un martyr de la foi, en plus, hein, hongrois. Alors, voyez-vous, d'abord, l'Église, elle est fondée sur la vérité, et une vérité qui descend de Dieu, qui est surnaturelle. L'homme doit beaucoup plus se soumettre à ce que Dieu dit qu'à ce que les choses ou son esprit peuvent lui dire. Voilà. Vous vous souvenez hier, les trois aspects, toutes les vérités à croire, l'objet matériel de la foi. Sous la couleur de la vérité première de Dieu, voilà. Et avec une lumière, la lumière propre du bon Dieu, l'intelligence divine. Alors, c'est d'abord ça. Et même la doctrine sur l'Église, elle est révélée. Alors, il y a des choses plus ou moins révélées dessus, tout ce que nous apprenons. Alors, je vous donne la définition maintenant. L'Église est la société des vrais chrétiens. Aujourd'hui, un prêtre me dit, qu'est-ce que c'est qu'Ezako, les vrais chrétiens, aujourd'hui? Ben oui, il y a plusieurs églises dans l'Église. Et les protestants, ils sont un petit peu chrétiens, quand même. Ouais. Combien de sectes il y a? Est-ce qu'il y a un protestant? Non, il y a des dizaines, des centaines de sectes protestantes. L'Église est la société, Sochi, les amis, des vrais chrétiens, c'est-à-dire, alors, on précise, les baptisés par le baptême catholique, de l'eau, des exorcismes, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, qui professent la foi. Professer la foi, c'est quoi? C'est croire d'abord intérieurement, et c'est pourvoir adhérer à ce que vous diriez dans le credo du dimanche. Que c'est vrai, tout ce que j'ai dit là, c'est vrai, j'en suis sûr et certain, plus sûr que ma vie. Dieu de Père Tout-Puissant, Jésus-Christ, l'Église, le Saint-Esprit, la communion des saints, la rémission des péchés, tout. Tout jusqu'au dernier iota, parce que c'est Dieu qui l'a dit. Qui professe la foi et la doctrine de Jésus-Christ, participe à ses sacrements. Les sacrements catholiques. Pas des sacrements dégénérés, comme il peut arriver pour certains baptêmes, certaines confirmations et malheureusement certaines messes, dans le nouveau rite. Et qui obéissent au pasteur établi par lui. Alors là, il y a beaucoup de distinctions à faire, beaucoup de précisions à donner à tout ça. Cette société a été fondée par Jésus-Christ, qui réunit ses fidèles dans une société. Il a voulu donc la société, l'Église doit être visible. Pas question d'être TJ avec leur Bible, hein, les témoins de Jéhovah. Vous êtes nés depuis quand, vous? Un siècle dernier, Rutherford. Ah ouais? Ben, l'Église, elle a 2000 ans. Vous êtes en culotte courte, mes enfants, nés de la dernière pluie. L'Église a été fondée par Jésus-Christ, qui réunit ses fidèles dans une société visible, qu'il a soumis aux apôtres et à ses successeurs, avec Saint-Pierre pour chef, et qui donne à son Église un sacrifice et sacrement, qui fait vivre l'Église. L'Église vit essentiellement de l'Eucharistie. C'est la fin de l'Église aussi. La fin étant la charité, par l'Eucharistie. Qui lui donne le sacrifice, qui lui donne les sacrements, les sept, qui lui donne surtout l'Esprit Saint qui la vivifie. Donc l'Église société, on dirait aussi corps moral, c'est-à-dire un corps de personnes, constitué de personnes, non pas un corps avec des membres physiques, mais des membres qui sont des personnes humaines, un corps moral. Et ce corps, il a une âme. L'âme de l'Église, nous dit le Père Emmanuel, au sens propre, au sens strict, ce sont les fidèles en état de grâce. Pour l'état de grâce, il faut qu'ils aient la foi, la charité, évidemment, et qu'ils nourrissent cette grâce par la prière et les sacrements. Il dit, c'est ça l'âme de l'Église. Alors certains le sont visiblement, d'autres peuvent l'être, justifié, invisiblement, c'est très rare quand même. Et appartenir à l'âme de l'Église sans appartenir au corps, il faut appartenir aux deux autant que possible. Être catholique, professer catholique et fréquenter extérieurement les sacrements catholiques, etc. Ceux qui seraient sauvés hors de l'Église, hors du corps, non pas hors de l'âme, le seraient non à cause de leur religion, mais malgré les erreurs de leur religion. Si un musulman, si un bouddhiste, si un protestant se sauve, parce qu'il a été droit, parce qu'il a été vraiment cherché à éclairer sa conscience, s'il a eu des ignorances invincibles, un tas de circonstances que Dieu seul a pouvoir mesurer, il sera sauvé à cause de l'Église catholique, et non pas à cause de sa secte. Il faudrait le redire beaucoup aujourd'hui en notre temps d'écuménisme. Il n'y a pas de choses bonnes à proprement parler dans les autres religions ni dans les autres confessions chrétiennes. Le Padre Pio avait une très très belle, un très beau symbole pour expliquer ça, par rapport aux sectes spécialement, et encore plus par rapport aux fausses religions. L'Église catholique est un très beau diamant qui a toutes les facettes de la vérité. Ah, tout ça, c'est les couleurs de la vérité. Vous aimez les prières précieuses, mesdames, les bijoux. Voilà, c'est le plus beau diamant qui soit sorti du cœur de Dieu. La société divine de l'Église. Avec toutes les vérités, toutes les couleurs, toute la lumière. Toutes les nuances de lumière d'un arc-en-ciel. Qu'est-ce que font les sectes, dit le Padre Pio ? Ils prennent une facette et ils la font apparemment briller plus que l'Église. Alors nous, protestants, on a la Bible. Bon, les catholiques, vous ne savez pas la Bible. D'ailleurs, vos fidèles, ils ne savent même pas ce qu'il y a dans la Bible, la plupart. Ah. Souvent, ils prennent la Bible. Hors de l'Église catholique, ce sera la vie intérieure. Enfin, on est un peu passé maintenant de ces idées-là, heureusement, mais enfin, il y en a encore qu'un peu, surtout en jeunesse, des illusions de ce côté-là. La vie intérieure, il faut aller aux Indes, faire du yoga. Piou, 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 piou. Ah, là, ils sont silencieux, ils jeûnent. Oh, on n'a pas ça dans l'Église catholique. On ne jeûne pas comme Gandhi, ou comme Sri Moy, ou je ne sais pas quoi. Vous voyez, une facette, on la fait briller. Mais à côté de cette facette, c'est les ténèbres. Les ténèbres. D'ailleurs, c'est très intéressant, surtout les témoins de Jéhovah, mais aussi protestants, c'est un peu comme ça. Vous prenez leur Bible, il n'y a que des passages, certains passages soulignés. Il suffit que vous regardiez deux, trois lignes avant, deux, trois lignes après, pour que le passage tel qu'ils l'interprètent, vous voyez que c'est faux, quoi. C'est tordu, quoi. Ils n'ont pas les bonnes lunettes, quoi. Ils ont mis des lunettes, il y a des choses qu'ils voient. C'est très amusant, on a eu ça il y a deux ans. Les témoins de Jéhovah, ils viennent tous les mois avec leur, la tour de garde, et puis je ne sais plus quoi, là. Très bien fait en général d'ailleurs, très bien fait, il y a des choses intéressantes dedans. Je ne dis pas de vous en faire votre lecture spirituelle, hein. Direction poubelle. Bon, mais, et puis on s'est dit, tiens, on faisait des sessions à ce moment-là avec les pères dominicains, et ça tombait bien, on avait le professeur d'écriture sainte. En général, on est deux quand on les reçoit. Parler, on a un, puis l'autre, pardon, bon. Alors cette fois-là, le père Antoine est allé avec le père professeur d'écriture sainte. Et puis comme la discussion commençait un peu chauffée, le père Antoine, il est parti, il avait un rendez-vous, il est resté le seul, le père. Bon, ils n'ont rien dit sur le moment, mais enfin, entre la première visite et la troisième visite, à la deuxième, ils ont dit, on vous veut bien vous, mais pas le père professeur d'écriture sainte. Pas le petit père en blanc, là. Mais il faut voir, ils étaient sur le chapitre 6 de Saint Jean, sur l'Eucharistie. Les acrobaties qu'ils faisaient pour ne pas dire que Jésus-Christ, c'est son corps qu'il avait, que c'est le pain. Son pain, c'est mon corps, je vous donnerai mon sang. Incroyable. Incroyable. Vraiment l'aveuglement, quoi. Alors, moyennant quoi, le père, à la fin, le père, il avait dit, de toute façon, l'Église, elle a dit ça, vous vous trompez, quoi. Vous n'avez pas l'autorité, quoi. Alors, vous vous trompez, quoi. Vous êtes des orgueilleux et puis des aveugles. Bon. Bien, revenons. Oui, fait briller quelque chose. Ah, les sacrements, l'Esprit Saint. L'âme de l'Église, les fidèles, en état de grâce et de croissance dans la grâce. Et le Père Emmanuel a cette belle expression. L'âme de l'Église, c'est l'Esprit Saint. Parce que c'est lui qui est l'animateur de cet esprit de grâce, de cet esprit de vertu, de cet esprit de lumière, de cet esprit de force. Corps mystique de Jésus-Christ, dont l'âme de l'âme, est l'Esprit Saint, qui anime les âmes à vivre en état de grâce, et à croître dans la grâce par la prière et les sacrements. C'est presque complet. Société visible, corps et âme. Alors maintenant, pour reconnaître la vraie Église, puisqu'il paraît que maintenant on a des églises sœurs, il faut voir ce qu'il dit, la Minzenti, je vais vous le lire tout de suite, comme ça vous allez tout de suite être au courant. Bon, je suis là dans l'étape unité, les quatre notes de l'Église. Une, sainte, catholique, apostolique, romaine. Unité de l'Église. Ah, beau ça. J'espère que je vais retomber dessus. 61. J'espère que c'est 61. Ah voilà. Cardinal Minzenti, dans un très beau livre, La mer miroir de Dieu. Ah, ça, faut que vous lisiez, mesdames. Hein. Ah, c'est beau! Et c'est surtout vrai et bon. Chez MAM, édition MAM. Bon, c'est peut-être édité chez Clovis. De même que chacun de nous n'a qu'une mère, il n'y a aussi qu'une seule Église. Car Dieu n'a envoyé sur la terre qu'un seul Christ. Et le Christ, au moment de quitter ses disciples, a dit, « Croyez-moi, je suis dans le Père est en moi, nous sommes un. » Si nous quittons le vaisseau sauveur de l'Église, nous allons nous échouer sur les bancs de sable et nous donnons contre des récifs. Quand nous regardons l'histoire de l'Église, le manteau de l'Église a pu être déchiré. Et les fragments dispersés de ce manteau ne peuvent être qu'un vague souvenir de l'Église. Ils ne peuvent être l'Église elle-même. Les différentes confessions représentent une dégradation de l'Église catholique. Qu'est-ce qu'il est réac ? L'expression « les églises » est une violation du testament de Jésus. Nos pasteurs modernes, hein, « les églises » est une violation du testament de Jésus. L'Église ne parle pas des églises, il parle d'une bergerie, d'un pasteur, d'un enseignement, d'une foi. Et il ne souhaite d'autre unité que celle qui associe le Père et le Fils. Voilà pourquoi saint Cyprien dit « Nul ne peut avoir Dieu pour Père qui n'ait l'Église pour Mère ». Et saint Paul ajoute, un seul maître, une seule foi, un seul baptême. Ailleurs, il parlera de corps unique. Le corps unique, expression de l'Église, de l'unité de l'Église, c'est nous, les catholiques. Au cours des 1440 minutes d'une journée, ah, il dirait peut-être pas tout à fait ça aujourd'hui, mais vous allez voir. Le sacrifice de la messe est célébré dans toutes les parties du monde, en ronde ininterrompue. Là, c'est un peu plus en pointillé. Bon, sur chaque autel... Les prêtres et les chrétiens s'unissent par la pensée avec le souverain pontife. On est en 56. Son nom, je ne suis pas cédévacantiste, rassurez-vous. Son nom est l'expression terrestre et extérieure de l'unité miraculeuse et indissoluble de l'Église qui est l'épouse du Christ. Donc le sacrement. Pourquoi ils ne veulent pas deux messes là avec le motu proprio ? Ils en veulent qu'une. D'un certain côté, c'est une réflexion catholique, ça. Il faut qu'il n'y ait qu'une seule messe, un seul culte avec quelques rites permis. Qui existe depuis longtemps. Ce serait un réflexe catholique. Mais comme les deux, ça ne peut pas très bien aller ensemble, il y en a une nécessairement qui doit rejeter l'autre, quoi, c'est sûr. Il y a une certaine cohérence là-dedans. Il ne peut pas passer. Une messe protestantisante et une messe qui est parfaitement catholique, qui exprime le sacrifice, la croix, ça ne peut pas passer. Ça ne peut pas passer avec une messe protestante. Ça ne peut pas passer. Même si elle est dite pieusement... Je me souviens, dans les années 70-80, certains nous disaient, en études de cours, on disait, est-ce qu'un saint pourrait célébrer la messe Paul VI ? Oui, il pourrait célébrer la messe Paul VI. Mais ce n'est pas cette messe qu'il sanctifierait. Voilà. Oui, pourrait, possible. Il peut y avoir des saints dans l'Église actuelle, oui. Mais ce n'est pas à cause de la sainteté du rite Paul VI, sûrement pas. Sûrement pas. Même un cardinal Journet, qui est pourtant ami de Maritain, a émis de sérieuses réserves sur le nouveau rite. Sur le nouveau catéchisme, sur tout ça. Et c'est loin d'être un catho tradit, le cardinal Journet, même si ce fut un grand théologien spirituel, grand théologien. Plusieurs de ses thèses sont pas trop dans, tout à fait dans l'axe. Surtout sur ce qui concerne d'ailleurs l'Église. L'Église et les rapports avec l'État. Les confessions dont le dogme repousse l'unité sont comme un empire qui s'effrite. Dès le moment où l'on est séparé de la tête unique, la désagrégation se poursuit. Alors après, il analyse l'Église grecque, l'Église anglicane. Ce démembrement de la chrétienté est particulièrement désastreux dans les missions. Parce que disait notre Monseigneur, quand il n'y a plus une seule foi, un seul culte, un gouvernement qui est cohérent, l'esprit missionnaire ne peut que se perdre. Ne peut que se perdre. Donc, voilà. Donc, unité. Unité de la foi. Unité de la foi. Unité de la profession de la foi. Unité de l'enseignement de la foi dans les églises et dans les écoles avec les conséquences. Alors on va se mettre à enseigner l'Église catholique au catéchisme, les sermons, puis on va envoyer les gamins apprendre des vérités qui contrarient la foi. Qu'est-ce que c'est que ces écoles laïques, etc. Oui, on n'en est peut-être plus autant de petits pères Combes. Mais en attendant, tout ce qui est enseigné du point de vue naturel, c'est un enseignement qui est sans Dieu et assez souvent contre Dieu, au moins implicitement. Au moins implicitement. Combien de prêtres catholiques, pas de prêtres chrétiens, nous disent qu'il faut qu'il y ait des écoles catholiques, qu'il y ait une mentalité, une atmosphère catholique. Alors je vais apprendre des choses surnaturelles de monsieur le curé, et puis mon instituteur, mes profs de collège, de lycée, de faculté, vont m'enseigner des choses qui implicitement sont contre Dieu, en histoire, en droit, en philosophie, en littérature, imprégnées de naturalisme, imprégnées d'erreurs. Le pire, c'est quand les erreurs sont implicites. Quand c'est explicite, on voit encore assez bien. C'est gros comme une montagne. Mais quand c'est implicite, quand c'est dans les méthodes, quand c'est dans la manière de voir, quand c'est dans les méthodes employées pour penser, c'est mortel, ça tue la foi. Ça tue le terreau naturel de la foi, c'est des intelligences qui fonctionnent bien, des volontés qui n'obéissent pas aux passions. Alors là, on voit la vérité, on est prêt à recevoir la vérité. Et c'est pourquoi des fois la vérité prend mieux chez des soi-disant sauvages que chez nos néo-barbares de nos villes modernes, parce qu'ils sont déjà tordus par l'audiovisuel, par je sais pas quoi, par l'éducation, par les parents qui n'ont plus de conviction, même pas naturelle sur certains points, de morale naturelle. Unité dans l'Église, unité d'enseignement, unité du prêtre, unité du rayonnement de l'Église catholique dans l'enseignement. C'est une grande défaite qu'il y a eu. Dans... Ah, il y en a, ils applaudissent séparation de l'Église et l'État pour l'enseignement. Et dans la justice, pareil. Qui encore tire les conséquences légitimes, la foi, qu'il faut que les gouvernements, ils ont un devoir. Ah, mais les chefs d'État ne sont pas assez intelligents pour reconnaître la foi. Qu'est-ce que c'est que cette doctrine ? C'est faux. C'est faux. Ils sont bien assez intelligents pour prêcher leur doctrine perverse et morale, et pas assez intelligents pour voir au moins certains bienfaits naturels de la foi. Alors on retire Dieu de la Constitution, on retire Dieu de la justice, on retire Dieu des parlements, des écoles. Le dernier journal disait une très bonne citation, il disait « On arrache la foi de façon, en enlevant le culte catholique et en retirant le bon catéchisme avec toutes ses conséquences. » Le catéchisme, ce n'est pas fait seulement pour l'Église et la famille. C'est fait pour notre vie sociale aussi. Quels sont nos pasteurs qui nous disent ça, qui nous rappellent, qui en vivent de cette conviction-là? Que l'Église a la bonne philosophie, que l'Église a les bonnes vérités sur l'histoire, sur le droit, sur la civilisation chrétienne. Elle n'est plus inventée, disait Saint Pie X, la civilisation. C'est l'Église qui l'a apportée. C'est l'Église. Voilà. Et cette civilisation, elle se prêtait à diverses cultures, c'est vrai. Car les catholiques n'ont pas eu tout à fait les mêmes éléments, au moins culturels, selon qu'on était en Chine, en Amérique du Sud, en Afrique. Mais c'était tous des catholiques, ils avaient la même foi, un même culte notamment, une même langue liturgique, autant que possible. Voilà. Alors quand il n'y a plus d'unité dans la foi, qu'est-ce qui se passe quand on n'est plus sûr de la vérité surnaturelle? C'est forcé qu'on va retrouver ça aussi dans le culte, bien sûr. À partir du moment où vous ne croyez plus à la vérité, spéculative, surnaturelle, contemplative. Qu'est-ce qui va se passer? Les conséquences pratiques dans le culte, dans la messe, dans tout ça, vous allez faire de la relativisation. La messe catholique, elle est bonne pour les catholiques, mais il faut penser un peu à nos protestants. Alors venez, on va discuter un petit peu, là, pour bricoler une messe qui vous puissiez digérer. Ben non, non, parce que les protestants, le protestant, non seulement il a une fausse conception de la foi, mais les protestants, ils ont même une raison qui est tordue. Vous n'avez qu'à voir toutes les philosophies qui sortent de chez les protestants. C'est des philosophies qui sont tordues. Actuellement, on dit que même dans les universités catholiques, il y a une grande influence d'un philosophe qui s'appelle Paul Ricoeur. C'est un protestant. Protestant. Moins d'inspiration. Je ne sais pas s'il pratique, mais moins d'inspiration. Sa philosophie est tordue. Je regrette, elle est tordue, centrée sur l'homme, sur l'individualisme, sur l'interprétation, les signes, etc. C'est pas possible, on peut pas permettre ces gens d'entrer dans l'esprit même de l'Église catholique s'ils laissent pas leur protestantisme à la porte, libre examen, subjectivité personnelle, relativisme de la vérité, on peut pas. Ils vont nous casser le culte, ces gens-là. Même s'ils sont pieux, s'ils sont religieux, il peut y avoir des gens très religieux dans le protestantisme, naturellement religieux. Mais quand ils deviennent surnaturellement religieux, ils se font catholiques. Quand ils deviennent vraiment surnaturellement, qui s'aperçoivent de toutes les contradictions qu'il y a dans les sectes protestantes, ils se font catholiques. Voilà. Quand on pense, hein, dans les années, vers la fin des années 50, quand il y avait le Max Turian, Schutz, je ne sais pas, le Max Turian, oui, il voulait se faire catholique. Non, attendez, vous servirez de pont avec l'Église catholique. Moyennant quoi, il ne s'est jamais fait catholique. Hein. Enfin, vraiment catholique. On l'a laissé dans le protestantisme. Vous servirez de pont, tu parles. Il est resté à l'entrée du pont. Il n'est pas passé à l'autre côté. Hein. Ou il est resté au milieu. Bon. Alors, donc, la foi, les vérités de la foi, la profession de la foi, par nous qui sommes obligés, par devoir, par ministère, par magistère, qui nous est confié, pour vous, catholiques aussi, profession de la foi, selon votre, vos connaissances, etc., au moins au sein de votre famille, et selon, bien sûr, les règles de la prudence, de la charité, etc. Bon. Ensuite, le culte, unité de culte. Tout est centré autour de la messe. Le point de départ, c'est le baptême. L'importance du sacrement de pénitence. L'Église est faite de pécheurs, et elle le sait. Ça n'empêche pas sa sainteté. Elle est sainte dans ses sacrements. Elle est sainte dans la doctrine qu'elle prêche. Elle est sainte dans les êtres qu'elle produit et qu'elle propose à notre admiration. L'Église est sainte. Elle produit des saints. Elle en a fait durant les siècles. Très ingénument, un protestant qui assistait à Viaticum de Dieu, bah, chez nous, aux protestants, il n'y a pas de saints. Je ne sais pas dans quel sens il le disait. Je ne sais pas ce qu'il y avait. Chez nous, il n'y a pas de saints. Est-ce qu'il voulait dire qu'il n'y a pas de gens canonisés ou vraiment, il n'y a pas de saints? C'est sûr que quand on vient de lire là, les sermons du père Marie-Antoine de Toulouse, là, au début du siècle, des controverses avec les protestants. Et il est allé chercher un peu tout ce qu'il y a dans les écrits de Luther et des premiers réformateurs. C'est abominable. On se demande comment les protestants, s'ils connaissaient ce père-là, de leur fondateur religieux, comment ils peuvent être encore protestants. Soit il faut qu'ils renient leur père, si on peut dire, leur fondateur. Bon, soit il faut qu'ils pensent que c'est pas vrai. Or, les œuvres de Luther, c'est un ramassis d'ordures. C'est ordurier, quoi. C'est sale moralement, c'est plein d'injures, c'est plein de désespoir. C'est vraiment, on demande... Et alors ensuite, en plus, c'est amusant parce qu'ils ne se donnaient pas des fleurs entre eux. Hein. Je vous garantis que comment Luther insultait Zwingli, Melanchthon et vice-versa, enfin tous, faut voir les noms d'oiseaux qu'ils se donnaient. Hein. Il n'y a même pas besoin. Les catholiques étaient plus pondérés, à mon avis. Bon, les pasteurs catholiques vis-à-vis d'eux étaient plus pondérés qu'eux, hein, entre eux. Bon, donc, sainteté du baptême, sainteté de la confession, sainteté, bien sûr, Dieu. Vous voyez, cette Église qui a... On se demandait à un moment si les hommes auraient pu inventer la confession, le sacrement de confession. Sûrement pas, hein, quand on voit que c'est difficile de dire ses péchés. Bon. Sainteté des états du mariage, sainteté de sacerdoce. L'Église qui accompagne depuis le berceau jusqu'à la mort, l'extrême onction, ses prières, ses bénédictions, etc. Sainteté de la liturgie que vous verrez, je crois, aujourd'hui, une instruction sur la liturgie. Sainteté, voilà. Donc elle est essentiellement surnaturelle, elle est visible. Elle est essentiellement surnaturelle. Elle est une. Elle est sainte. Elle est catholique. Tout lieu, tout temps, toutes les adaptations, à toutes les cultures, à toutes les époques, avec toujours la même logique, la même cohérence, la même foi, la même pratique. Fondée sur l'autorité des apôtres apostoliques, succession ininterrompue depuis Saint-Pierre jusqu'au pape actuel, ininterrompue. Il n'y a pas une seule société sur Terre qui a ça. Pas une seule. Voilà pourquoi les seules hérésies qui peuvent essayer de donner un coup à l'Église catholique, c'est des hérésies qui sont au moins aussi, entre guillemets, totalitaires. L'Église, elle est totale sans être totalitaire. Donc le communisme, ou les forces du Nouvel Âge, ou la franc-maçonnerie. Parce qu'en face de la société divine, ça ne peut être, si c'est des forces rassemblées, que la société de l'antéchrist. Ça ne peut pas être autre chose. Ou l'Église catholique, ou être instrument de l'antéchrist, pour les hommes, en tant que société. Alors attention, hein, les francs-maçons, ne pas les voir partout, mais ne pas les voir non plus nulle part. D'accord ? Pas partout, ni nulle part. Soyons pondérés. Mais savoir où est-ce qu'ils agissent. Bon, tranquillement, sans en faire non plus une obsession. Hein. Pas d'obsession. Vous n'allez pas vous sanctifier en contemplant les francs-maçons. Ou l'action de la société maçonnique. Bon. Donc, apostolique. Succession des apôtres. Donc on va avoir à gouverner selon ce que l'esprit qui a été donné par les conciles, par les encycliques, par l'enseignement, sur l'infaillibilité du pape, qui a des conditions particulières, spéciales. Monsieur, c'est pas tout le temps infaillible pour tout, non. Conditions tout à fait particulières. Et en tout cas, tout ce qu'il affirmera doit être en accord avec ce qui a été dit auparavant. Il n'invente pas des choses nouvelles. Il doit, en dogme, ni en dogme, ni en morale, inventer des choses nouvelles. S'il proclame une vérité, il souligne une vérité, c'est en harmonie, il y a ce qu'on appelle développement homogène des vérités. C'est-à-dire que c'est la même graine qui devient une fleur et un fruit. Ce n'est pas l'invention d'autre chose. Par exemple, la liberté religieuse, c'est une invention telle qu'elle est expliquée par le Vatican II, c'est une invention. La liberté dont l'Église a toujours parlé, c'est la liberté de prêcher la vraie foi, d'avoir le vrai culte sous les vrais pasteurs. Ce n'est pas la liberté de prendre autre chose, de bricoler la foi ou de bricoler le culte. Non, pour faire plaisir aux autres, par esprit de fausse charité, non. L'Esprit Saint est accordé, l'infaillibilité, le charisme d'infaillibilité est accordé au magistère ordinaire universel que dans la mesure où c'est un développement homogène. Alors, ne venez pas nous dire qu'il y a développement homogène de certaines vérités. Je ne dis pas que tout est mauvais, tout est, mais enfin, sur la liberté religieuse, sur l'écuménisme, sur la collégialité, il y a bien des choses qui sont tout à fait nouvelles et qui sont fortement en contradiction avec ce qui a été dit avant. Il suffit de regarder certaines encycliques du 19e. Ah oui, mais vous arrêtez au 19e, c'est un moment historique, etc. Mais ce 19e est l'écho de tout ce qui s'est fait avant, auparavant. Donc, succession apostolique. L'Esprit Saint ne peut pas se contredire. La liberté religieuse comme liberté d'adopter n'importe quelle religion sans faire toutes les distinctions. Parce que voyez pourquoi aussi la liberté religieuse, elle passe si facilement dans l'Église actuelle. Principalement, comment est-ce qu'on pervertit une vérité théologale et théologique ? En pervertissant les notions philosophiques qui sont dessous. Or, quelles sont les notions philosophiques mal expliquées, mal distinguées dans la liberté religieuse ? C'est tous ces concepts de dignité, de conscience, de droit, de personne humaine, de bien commun. Tout ça, c'est mal expliqué. Il suffit que vous preniez ces notions-là avec les philosophies modernes et vous tordez la vraie liberté. La vraie liberté ne peut s'appuyer que sur la vérité et sur la loi divine, donnée par Dieu, positive ou autre, tous les types de lois naturelles, surnaturelles. Il n'y a que l'Église qui a ça, qui est l'auteur des lois naturelles. Il y a un beau texte là-dessus. L'argumentation de la liberté religieuse, par quoi pêche-t-elle ? Elle ne peut être prouvée ni par la tradition. Ce ne sont pas les martyrs qui vont nous dire qu'il y avait la liberté de donner un petit grain d'encens aux idoles des dieux romains ou je ne sais pas quoi. Ni par l'Écriture sainte. Je vous garantis que les juifs avec leur religion, les juifs actuels, hein, il n'y a pas de liberté religieuse chez eux. Hein. La foi juive, c'est comme ça. Hein. Ça rigole pas. La liberté religieuse, on peut les donner pour les goïms chrétiens. Mais dans la synagogue, il n'y a pas la liberté religieuse. Sauf c'est les extrêmes gauches du judaïsme. Mais la ligne des rabbins, c'est loi religieuse, pas liberté religieuse, hein, vous n'en faites pas. Vous êtes sauvés si vous êtes juif. Et puis même si possible, avec la race juive, si possible. C'est mieux. Tu peux te convertir, mais c'est quand même mieux si tu es né juif. Or, ni par la raison. Or, elle ne peut être prouvée par la raison, cette liberté, parce qu'elle refuse de définir les termes de liberté, de conscience, de dignité, de personne humaine. Car si ces notions étaient définies, elles manifesteraient le vide de l'argumentation. En saine philosophie, ces notions ne peuvent être définies qu'en rapport avec la loi divine. Et qui a la lumière sur la loi divine ? Ceux qui ont la vraie foi de Jésus-Christ. La liberté nous est donnée pour l'observance spontanée de la loi divine naturelle et surnaturelle. La conscience est la loi divine naturelle inscrite dans nos cœurs et, après la grâce du baptême, c'est celle qui est inscrite, la loi divine surnaturelle. La conscience, donc, s'identifie à la loi divine naturelle inscrite dans nos cœurs, naturellement, comme créature, et quand on est baptisé, avec la loi divine surnaturelle. La dignité de la personne humaine ne s'acquiert que par l'observance de la loi divine. Les seuls qui ont perdu définitivement leur dignité humaine, c'est ceux qui sont en enfer. Là, il n'y a plus du tout de dignité, là, perdu. Plus de dignité humaine. Il est en vérité impossible de parler de liberté, de conscience, de dignité sans référence à la loi divine. L'observance de la loi divine est le critère de la dignité humaine. L'homme, la famille, la société civile n'ont une dignité dans la mesure qu'ils observent la loi divine. Et c'est aussi la loi de Dieu qui nous indique les normes de l'usage de notre liberté. C'est elle qui donne la mesure de coaction, c'est-à-dire de sanction à donner au mal, que peuvent employer les autorités légitimes constituées par Dieu. C'est elle qui donne en définitive la mesure de la liberté religieuse. D'où il suivra que l'Église catholique est la seule à posséder intégralement et parfaitement la loi de Dieu naturelle et surnaturelle, qu'elle a seule reçu le mandat de l'enseigner, qu'elle a seule reçu les moyens de la faire pratiquer, sacrement, bon enseignement, prière, etc. En elle seule, en effet, se trouve vraiment et réellement notre Seigneur Jésus-Christ, qui est l'Église, c'est Jésus-Christ répandu et communiqué, dit Bossuet, qui est notre loi. Elle seule a le véritable droit à la liberté religieuse partout et toujours. Les autres cultes, dans la mesure où ils observent cette loi divine, peuvent être considérés plus ou moins comme ayant un certain titre à une existence, à une certaine activité publique. Mais là, il faudra des cas concrets et particuliers où il y a une immense variété que la prudence peut examiner. La loi divine est la clé de toute cette question de la liberté religieuse parce qu'elle est la norme fondamentale de la religion et le critère de bonté et de dignité de toute activité humaine. On ne pourra jamais parler de religion si l'on ne se réfère à la loi divine parce qu'elle est un lien religio-religare, lié avec, et c'est elle qui oblige, obligatio, le lien, c'est elle qui le fait, qui le montre. En sont témoins l'Ancien Testament et le peuple élu pour lesquels la loi divine inscrite sur les tables était vénérée à l'égal de Dieu lui-même. Donc, apostolicité, fondement des apôtres, autorité divine, succession, l'Esprit-Saint, les conciles, les magistères, le magistère, pas de contradiction dans le développement des vérités. Alors, ni liberté religieuse telle qu'elle est enseignée par Vatican II, ni écuménisme au sens de Vatican II, ça peut tenir. Il y aurait un sens, Monseigneur l'avait dit, il y aurait un sens légitime à donner la liberté religieuse. C'est sûrement pas celui qui a été enseigné et prêché depuis 25 ans, 30 ans. Écuménisme, pareil. Oui, il y avait des conciles écuméniques, mais pas de faux écuménisme. D'où le danger d'employer cette expression. Il y a un vrai écuménisme catholique, oui. Celui qui est hors de l'Église, pas de salut. Il faut te faire catholique. Alors, avec ta liberté, en expliquant la vérité, c'est sûr. Eh bien, le texte de Cardinal Mizenti, je vous le donnerai à la chapelle parce qu'il se prête très facilement à la prière. Alors, nous rendons à la chapelle. Pour les compléments, vous regarderez donc dans les livres de bibliographie que je vous ai donnés.
Père, Fils, Saint-Esprit, ainsi soit-il.